Aujourd'hui, il va être question du génie et de la folie. La présomption d'un lien entre le génie et la folie remonte jusqu'à Sénèque, qui cite Aristote pour déclarer « Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit ». Il n'y a jamais eu de génie sans mélange de folie. Affirmation entérinée par le dicton français « Il n'y a point de génie sans un grain de folie ». Dans une formule très connue aussi, ou très connue dans les pays anglophones, le poète anglais John Dryden affirme au XVIIe siècle que « Great wits to madness sure are near allied, and thin partitions do their bounds divide ». Le génie confine à la folie, ils ne sont séparés que par une mince cloison. Schopenhauer dira aussi, dans une formule souvent citée également, « Le génie et la folie ont un côté par lequel ils se touchent et même par lequel ils se pénètrent ». Et puis, pour conforter ce lien entre génie et folie, il y a en outre tous ces exemples de génie fou qu'on retrouve dans l'histoire culturelle depuis le Tasse, dans la prison des fous, jusqu'à Van Gogh, interné à l'asile de Saint-Paul, en passant par Hölderlin, fou dès l'âge de 36 ans, Nerval, patient dans la clinique du docteur Blanche, ou bien Schumann, qui passa les deux dernières années de sa vie dans une maison de santé. L'idée d'un tel lien devint tellement répandue au XIXe siècle qu'elle acquiert un statut de cliché, dénoncé en fait par Flaubert avec la notice « génie » dans le dictionnaire des idées reçues. Il faut toujours s'écrier « le génie, c'est une névrose », ce qui ne veut rien dire du tout. Sur un ton tout aussi narquois, Simone de Beauvoir va déclarer dans Le Deuxième Sexe « Il y a des femmes de talent, aucune n'a cette folie dans le talent qu'on appelle le génie ». L'origine de ce lien entre génie et folie est en réalité double. Fureur ou possession d'une part et mélancolie de l'autre. C'est à Platon, par exemple, qu'on doit la notion de possession ou de fureur, censée être indispensable à la création poétique. Ainsi qu'il le fait dire à Socrate dans son dialogue Ion, le poète, en effet, est chose légère, chose ailée, chose sainte, et n'est pas encore capable de créer jusqu'à ce qu'il soit devenu l'homme qu'habite un dieu, qu'il ait perdu la tête, que son propre esprit ne soit plus en lui. Tant que cela, au contraire, sera sa position, aucun être humain ne sera capable ni de créer, ni de vaticiner. Créer, c'est donc perdre la tête, n'avoir plus son esprit en soi, si bien que l'enthousiasme, autre mot pour possession, qu'on attribue au génie sera conçu comme un moment de folie passagère. L'autre version de la folie associée au génie, la mélancolie, est moins ponctuelle que l'enthousiasme. Et c'est une condition qu'on considère comme consubstantielle, pour ainsi dire, au génie. Cette association remonte au texte du pseudo-Aristote, qui était peut-être le vrai, on n'en sait rien, qui se demande pour quelle raison tous ceux qui ont été des hommes d'exception en ce qui regarde la philosophie, la science de l'État, la poésie ou les arts, sont-ils manifestement mélancoliques, et certains au point même d'être saisis par des mots dont la bile noire est l'origine. Le pseudo-Aristote donne comme exemple de cette tendance à la mélancolie non seulement Empédocle, Platon, Socrate et beaucoup d'autres parmi les gens illustres, mais aussi la plupart de ceux qui se sont consacrés à la poésie. Dans son analyse, de la bile noire, qui serait, d'après lui, la cause de la mélancolie, mot qui signifie justement bile noire, mélanos noire, collé bile, le pseudo-Aristote fait remarquer que ceux chez qui la chaleur se trouve proche du lieu de la pensée, dont notamment les poètes, sont saisis des maladies de la folie ou de l'enthousiasme. Et Aristote d'ajouter que Marcus le Syracusain était encore meilleur poète dans ses accès de folie. Chez lui, donc, l'enthousiasme vient donc se greffer sur ou à la mélancolie. Platon n'a aucune prétention médicale et il parle en tant que philosophe. Mais la discussion du pseudo-Aristote figure dans la section des problemata intitulée « Questions médicales ». Le rapport du génie à la mélancolie figure donc dans le cadre du discours médical, même si les prémices de ce discours fondées sur la théorie humorale du corps humain sont très différentes des nôtres. Qu'il s'agisse de ce qu'on appelle aussi délire ou bien de mélancolie, la condition d'être malade de son génie continue de figurer dans la pensée médicale. Par exemple, et ici je saute plusieurs siècles, dans les trois livres de la vie de Marsilio Ficino au XVe siècle, livre très influent, pour se relancer de manière importante au XVIIIe siècle, notamment dans l'étude du Suisse francophone Samuel Auguste Tissot, intitulée « De la santé des gens de lettres », paru en 1768. Le livre où il est bien plus question des maladies de gens de lettres que de leur santé, eut une influence importante sur la pensée médicale de l'époque et du siècle suivant. La frontispice du livre de Tissot affiche le statut médical de son auteur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ah oui, quand même. Docteur et professeur en médecine, membre de plusieurs académies et sociétés, dont l'Académie médico-physique de Bâle. Mais le livre se destine non seulement aux confrères médicaux de Tissot, mais très clairement aussi à un public non spécialiste, ou plutôt à un public concerné justement par la condition du lettré dont il est question dans ce livre. Tissot considère que les maladies caractéristiques des gens de lettres sont déclenchées par des pratiques professionnelles plutôt que par le tempérament inné. Mais les lettrés partagent avec les hommes de génie, dans le sens plus étroit du mot, ils partagent avec les hommes de génie une tendance à l'excès. Étudier, c'est toujours étudier à l'excès, ce qui fait de l'étude une sorte de manie qui a des effets délétères sur le corps. Un homme plein de génie, et là il s'agit bien de génie, un homme plein de génie qui s'est livré au travail avec une ardeur excessive, me disait, il n'y a pas longtemps, qu'après avoir travaillé avec feu pendant plusieurs heures, parce qu'il trouvait les forces de son âme exaltées, il sentait tout à coup sa tête s'affaiblir, ses idées devinrent confuses, il ne saisissait plus rien, il prit mal au cœur, eut plusieurs vomissements. L'étude, affirme Tissot, commence par détruire l'estomac, et le mal peut dégénérer en mélancolie. Mais, averti par Tissot des dangers qui les menacent dans leur travail, les gens de lettres, et même les hommes de génie, peuvent y remédier en suivant les conseils hygiéniques du médecin, qui devient désormais expert en les questions portant sur le génie. L'influence de Tissot se prolonge au XIXe siècle, notamment dans les écrits de Réveillé Paris, également docteur en médecine, et membre de l'Académie royale de médecine, comme l'annonce le frontispice de son livre à lui, intitulé « Physiologie des hommes livrée aux travaux de l'esprit », qui connut plusieurs éditions à partir de 1834, date de sa première publication. En parlant de manière explicite du génie, Reveillé-Paris s'inspire largement de Tissot en poursuivant son ambition de connaître physiologiquement les hommes de génie, qu'il conseille de lutter contre les effets destructeurs des fortes applications de l'esprit. Reveillé-Paris relève chez les hommes de génie, comme l'avait fait Tissot déjà, une tendance au travail excessif, motivée quand même par l'ambition d'éclairer le monde, d'illustrer leur pays, de faire époque dans l'histoire des sciences ou des lettres, en un mot, de vivre de la vie de l'esprit et laisser après eux une longue trace de lumière. Ambition dangereuse. Pour obtenir cette gloire, pourtant, cette gloire éternelle, qui se lève sur leur tombeau et ne s'éteint pas dans la postérité, que font les hommes qui se sentent nés pour l'atteindre? Ils se séparent du monde. Là, dans le silence et la retraite, leur vie, leur temps, leur force, leur talent, leur esprit, leur génie, tout est consacré aux opérations d'une pensée active et laborieuse. Tout s'efforce d'en faire jaillir l'inspiration vatie, sinatrice ou l'idée mère d'une vaste composition scientifique ou littéraire. Or, les forces s'usent, l'existence se flétrit, l'ardeur pour le travail s'éteint, les ouvrages entrepris languissent, le découragement survient et l'on perd à la fois sa santé, son bonheur actuel et sa gloire à venir. La plupart ont été souffrants et valétudinaires. Quelques-uns, il est vrai, furent plus heureux. Et pourquoi? Parce qu'ils adoptèrent et suivirent un régime convenable fondé sur la connaissance de leur constitution. Ceci nous prouve donc qu'on peut, par cette connaissance et par des moyens convenables, lutter jusqu'à un certain point contre les effets destructeurs des fortes applications de l'esprit. Il semblerait donc, d'après Reveillé-Paris, que ce n'est pas le génie en tant que tel qui est pathologique, mais le travail exorbitant auquel l'homme de génie a tendance à se livrer. En affichant les bienfaits offerts par les conseils du médecin, Reveillé brosse ici un portrait très ambivalent du génie, à la fois source de gloire éternelle et danger mortel pour la santé. Ce faisant, la littérature médicale de l'époque propage une certaine image pathologique du génie disposé à l'excès et à l'autodestruction, même si c'est un destin dont le médecin se propose de le sauver au moyen de ses conseils et aussi par des exemples tant positifs que négatifs qu'il en fournit. Le génie est donné ainsi en spectacle par les portraits que le médecin en fait dans ses livres, destinés au public, tout autant qu'à des confrères médicaux. C'est le cas notamment dans une autre branche de littérature médicale consacrée au génie, où l'image en devient inéluctablement pathologique. Il s'agit de la branche connue sous le nom de médecine mentale ou médecine morale, précurseur de la discipline qui, vers la fin du siècle, va s'appeler psychiatrie. Les Français dominent dans ce domaine, fondé en grande partie par Philippe Pinel et son disciple Jean-Étienne Esquirol. Voilà, Esquirol. Ni l'un ni l'autre de ces deux aliénistes ne cherche à faire directement du génie un exemple de ces maladies, mais les conditions qu'ils désignent comme maladives correspondent à certains des attributs couramment associés au génie. La mélancolie, par exemple, qui caractérise le génie du pseudo-Aristote et à laquelle les gens de lettres étaient sujets selon Tissot, devient l'une des conditions principales dont les aliénistes vont s'occuper pour le rebaptiser monomanie triste ou lipémanie. Et c'est une maladie qu'Esquirol définit comme un délire partiel chronique. Le mot délire rapproche le malade mental au génie, en proie à l'enthousiasme, et en effet, la manie, terme majeur dans la médecine mentale du XIXe siècle, est rapprochée de manière explicite au génie dans l'article Manie d'Esquirol dans le Dictionnaire des sciences médicales, où il dit « Le délire des maniaques a quelque rapport avec l'exaltation de l'homme de génie. Ses pensées se présentent en foule, se pressent, se poussent même pêle-mêle à son esprit. Le maniaque d'Esquirol ressemble à s'y méprendre au Dorval en proie à l'enthousiasme, tel que Diderot l'avait, que Diderot l'avait décrit dans les entretiens sur le fils naturel. Sa passion s'élèverait presque au degré de la fureur. Il ne connaîtrait pas... c'est vraiment pas lisible. Il ne connaîtrait de soulagement qu'à verser au dehors un torrent d'idées qui se presse, se heurte et se chasse. En plus de la mélancolie, de la manie et du délire, l'imagination devient le point de mire des aliénistes du XIXe siècle. Naguère considérée comme propriété indispensable au génie, l'imagination continue d'être célébrée par les écrivains du XIXe siècle. Pour Vigny, par exemple, c'est l'imagination, plus que toute autre chose, qui caractérise le poète de génie et qui lui permet de découvrir des mondes inconnus. Je cite Vigny, « Elle emporte ses facultés vers le ciel aussi irrésistiblement que le ballon enlève la nacelle. » C'est ce qu'il écrit dans la préface de Chatterton. Pour Baudelaire, comme on le sait, c'est tout bonnement la reine des facultés. Mais il en va tout autrement pour les aliénistes, pour qui cette faculté constitue une menace pour la santé mentale. Selon Pinel, l'imagination paraît être celle de toutes les facultés de l'entendement qui est la plus sujette à des lésions profondes. Et rien n'est plus fréquent dans la manie que ces transformations idéales ou ces illusions fantastiques qui sont relatives à notre état physique. Et Pinel de préciser que certaines professions disposent plus que d'autres à la manie, et ce sont surtout celles où une imagination vive et sans cesse dans une sorte d'effervescence n'est point balancée par la culture des fonctions de l'entendement ou est fatiguée par des études arides, sans doute excessives aussi. Il en trouve la preuve en compulsant les registres de l'hospice de Bicêtre, où on trouve inscrits beaucoup de prêtres et de moines, ainsi que des gens de la campagne égarés par un tableau effrayant de l'avenir. Plusieurs artistes, peintres, sculpteurs ou musiciens, quelques versificateurs extasiés de leur production, un assez grand nombre d'avocats ou de procureurs, mais on n'y remarque aucun des hommes qui exercent habituellement leurs facultés intellectuelles. Point de naturaliste, point de physicien habile, point de chimiste, à plus forte raison, point de géomètre. Les domaines où le génie est le plus apte à s'épanouir, les arts et la littérature, sont ceux-là justement où l'imagination a un rôle prépondérant, ce qui, selon l'aliéniste, favorise l'émergence de la maladie mentale qu'il nomme manie. Dans la perspective de l'aliéniste, l'imagination crée des illusions fantastiques qui s'instaurent à la place d'une vision objective du réel, et les médecins ne tarderont pas à qualifier l'imagination d'hallucination, notamment dans les travaux de Louis-Francisque Lélu. C'est l'auteur, je trouve que c'est intéressant de voir un peu la tête de ces gens. C'est l'auteur de nombreuses études, dont les mieux connues sont consacrées à deux hommes chez qui on reconnaît volontiers du génie, à savoir Socrate et Pascal. Tout d'abord, du démon de Socrate, spécimen d'une application de la science psychologique à celle de l'histoire, qui parut en 1836 et qui fut réédité en 1856 sous un titre augmenté, « Le génie, la raison et la folie, le démon de Socrate, etc. » Et puis, il publia en 1846 « L'amulette de Pascal pour servir à l'histoire des hallucinations ». Un Pascal halluciné, alors. Exemple d'un genre qu'on connaît maintenant sous le nom de pathographie, ces livres racontent les vies de Socrate et de Pascal du point de vue de l'aliéniste qui, de manière rétrospective et grâce à aux connaissances scientifiques de son époque, cherche à diagnostiquer les maladies supposées de personnages du passé. Ce qui, dans le cas de Lélu, consiste à représenter le génie en termes de folie. Génie, raison et folie, comme dans la version rééditée de son livre sur Socrate. Folie, notamment, qui se manifeste pour lui sous forme d'hallucination. L'aliéniste ne cherche pourtant pas à nier la présence du génie chez certains individus, et il va même jusqu'à accorder à l'imagination un rôle important dans les pratiques du génie. Important, mais aussi ambivalent. C'est l'imagination qui, sous le nom de génie, donnant des sens à la prévision, révèle aux intelligences d'élite des faits alors voilés pour l'expérience, des vérités qui, pour le reste des hommes, ne sont encore que des paradoxes. Oups, mais c'est elle aussi, décidément, j'ai des problèmes avec mon PowerPoint aujourd'hui, mais c'est elle, poursuit-il, aussi dont l'action désordonnée pourra, dans des circonstances fatales, transformer en sensations fausses auxquelles ces esprits ardents auront autant de foi qu'aux sensations les plus habituelles, leurs conceptions, leurs idées ou les images sous lesquelles ils se les représentent. Dans cette logique, donc... Non, toujours pas. Dans cette logique, donc, on peut ne pas appeler du nom de folie cet état anormal de l'intelligence, en vertu duquel les plus vaines et les plus absurdes chimères sont admises et obéies comme les plus palpables réalités, mais le difficile sera de lui trouver un autre nom. Donc, imagination égale folie, quoi qu'on dise. Chez les hallucinés, les idées résultent de perceptions fausses qu'ils prennent pour la réalité. En cela, ils sont en quelque sorte le contraire du médecin qui l'observe, ou bien du naturaliste, du physicien, du chimiste et du géomètre qui, selon Pinel, n'étaient pas induits en erreur par l'imagination. Au lieu de projeter des illusions fantastiques sur la réalité externe, comme le font les visionnaires, c'est-à-dire les fous, le médecin observe son patient avant d'en déduire un diagnostic basé sur la réalité physiologique de la personne. Bref, la vue du médecin est objective alors que celle du génie, de l'halluciné, est complètement fantasmée. La perspective du médecin est essentiellement égalitaire et ne se laisse impressionner ni par ceux en haut de l'échelle sociale de son époque, ni par les grands génies du passé. Il observe Socrate et Pascal à plusieurs siècles de distance pour les analyser selon les critères de la médecine du XIXe siècle, c'est-à-dire comme si c'était des patients à Bicêtre ou à la Salpêtrière. Là, c'est bon. Ce qui ferait maintenant enfermer un homme dans une maison de fous, ou ce qui, du moins, lui vaudrait un jugement d'interdiction, faisait de lui, dans les âges reculés, un inspiré, un homme de Dieu, un réformateur des peuples. Si donc les gens du passé ont accepté sans conteste que Socrate ait eu un démon, c'est-à-dire un daimon ou un genius, dont il écoutait la voix, ou s'il disait que son influence sur les gens s'exerçait à travers des murs, c'est au dire de l'élu que les connaissances des anciens n'étaient pas faites pour comprendre le caractère pathologique de ces phénomènes. Il en va de même au XVIIe siècle pour Pascal, dont l'hypersensibilité pendant sa petite enfance, où l'amulette où le philosophe notait son expérience de la fameuse nuit de feu, n'avait rien pour choquer une société dominée par les croyances religieuses de l'époque. Mais pour les aliénistes du XIXe siècle, les connaissances scientifiques leur permettent de corriger les perspectives censées erronées du passé. La posture pathologisante qui devient celle de la science médicale de l'époque se prolonge dans les travaux de Moreau de Tours, contemporain exact de l'élu, voilà Moreau de Tours, et disciple d'Esquirol à Charenton. Il fut par ailleurs membre fondateur du club des Achichins, auquel assista notamment Baudelaire. Moreau publia deux études sur les hallucinations et une autre sur le hashish. Mais l'ouvrage pour lequel il est le plus connu et qui a eu une influence importante sur ses successeurs, notamment sur l'italien Cesare Lombroso, s'intitule « La psychologie morbide dans ses rapports avec la philosophie de l'histoire ou de l'influence des névropathies sur le dynamisme intellectuel », livre qui parut en 1859. La discipline médicale est rebaptisée psychologie morbide et son objet est qualifié de névropathie, condition qui recouvre toute activité mentale depuis la folie jusqu'au génie, ou plutôt qui les recouvre de manière à en faire des variantes d'une seule et même condition morbide. Encore une fois, le médecin affiche ses compétences professionnelles prétendant que seule la psychologie morbide a le pouvoir de pénétrer les mystères de l'intelligence en fouillant, dit-il, je cite, « dans les entrailles de l'homme par le seul chemin qui mène à la vérité, l'observation ». Encore une fois, on voit le médecin se targuer de ses dons d'observation. Veut-on rester dans le vrai, le positif, et prendre comme au daguerréotype la physionomie morale et intellectuelle de ces grandes individualités, les voir en un mot tels que la nature les a formés et non tels que l'imagination peut se les représenter, il faut de toute nécessité baser son appréciation sur les données scientifiques. Ces données restent pourtant assez vagues. Moreau se limite à l'observation du comportement de quelques-uns de ses patients, observation qu'il alterne avec des conjectures, ou plutôt, on va dire, des convictions concernant l'origine organique des phénomènes. S'il affirme que les troubles psychiques et les névroses proviennent d'une même lésion primordiale, et que ses études portent exclusivement sur l'origine ou conditions organiques des phénomènes en question, les preuves concrètes, manquent. Par contre, ou, on pourrait dire en compensation, Son langage est tissé de vocables qui laissent supposer un substrat physiologique derrière des manifestations de conditions mentales. Il affirme, par exemple, que le génie, comme toute disposition quelconque du dynamisme intellectuel, et on peut noter cette expression « dynamisme intellectuel », a nécessaire son substratum matériel. Ce substratum, c'est un état semi-morbide du cerveau, véritable hérétisme nerveux. Hérétisme signifie excitation anormale. L'état de surexcitation où il voit un dénominateur commun du génie et de la folie est désigné aussi diathèse névrosique. Il parle aussi d'orgasme général du système nerveux qui, d'après lui, de vague et indécis qu'il est dans le principe, tend à se localiser et à se concentrer dans l'encéphale. Avec la notion d'une lésion primordiale, ce vocabulaire scientifique, avec ses hérétismes, ses diathèses, ses encéphales, a de fortes connotations organiques qui manque pourtant de substratum, pour reprendre le mot latin dont il s'est servi lui-même pour faire sérieux, qui manque de substratum organique matériel démontré. Le prétendu substrat physiologique de l'activité mentale est conforté dans les travaux de Moreau par le principe d'une prédisposition fondamentale qui réunit toutes sortes de conditions pathologiques, ce qu'il appelle une lésion primordiale prédispose non seulement à la folie ou au génie, mais aussi à toute une gamme de maladies physiques. Aliéné, idiot, scrofuleux et rachitique, en vertu de leur commune origine, de certains caractères physiques et moraux, doivent être considérés comme les enfants d'une même famille, les rameaux divers d'un même tronc. Et pour étayer cette thèse, Moreau inclut dans son livre l'image d'un arbre, voilà l'arbre, qui représente de manière visuelle ce réseau de pathologies, depuis l'otite, ou l'alcoolisme. Où est-ce qu'il est parti, l'alcoolisme? Ben, il n'est pas loin, l'alcoolisme. Depuis ces deux-là, vers le bas, en passant par la scrofule. Vous la repérez, la scrofule, et le rachitisme, jusqu'aux tumeurs et congestions en haut, avec de l'autre côté du tronc les intelligences exceptionnelles. Comme ça, vous voyez, il y a tout un réseau où tout se tient, tout se rattache à tout. En conformité, comme vous voyez, comme c'est inscrit en base du tronc, avec la pensée héréditaire de l'époque, dont on connaît bien sûr l'illustration dans la série des Rougon-Macquart de Zola, Moreau affirme l'existence d'un lien héréditaire entre la folie et le génie. Mais la transformation de l'une en l'autre peut aussi s'effectuer chez le même individu. Quelques instants ont suffi pour transformer l'homme de génie en un pauvre aliéné. Le génie, c'est-à-dire la plus haute expression, le nec plus ultra de l'activité intellectuelle, qu'une névrose. Pourquoi non ? Moreau veut bien ici distinguer entre génie et folie. L'un n'est pas tout à fait synonyme de l'autre, mais on passe d'un état à l'autre à travers la mince cloison évoquée par le poète anglais Dryden, que j'ai cité au début. L'homme de génie peut sombrer dans la folie et la folie peut le guetter à cause d'une prédisposition originale, censée résider dans le cerveau et transmise par l'hérédité d'un individu à l'autre. Bref, le génie est un phénomène essentiellement instable, dont seul le médecin connaîtrait la vérité fondamentale. Il faut toutefois remarquer que cette vérité concerne uniquement l'homme de génie et non pas l'œuvre, dont il est très rarement question dans la littérature médicale. Les médecins s'intéressent principalement aux données biographiques et s'y font allusion aux auteurs et artistes du passé, c'est principalement au moyen d'anecdotes biographiques supposées fournir la preuve du caractère pathologique de la personne. La dernière partie du livre de Moreau consiste en plusieurs des anecdotes de ce genre, concernant des rois et des reines, des hommes militaires, des saints et des saintes, quelques peintres et musiciens et plusieurs auteurs, comme par exemple, comme exemple de folie proprement dite, il y a celui de Hegel, contaminé génétiquement, pour ainsi dire, par sa sœur. Hegel, sa sœur a été folle. Elle se croyait changée en un paquet qu'on allait sceller, plomber et mettre au roulage. Chaque fois qu'elle apercevait un étranger, elle tremblait de tous ses membres. Elle a fini par se jeter à l'eau. C'est tout ce qu'il raconte sur Hegel et c'est censé être la preuve que Hegel lui-même était touché par la folie. Parmi les faits biographiques se rapportant aux névroses, on trouve aussi, pour Pétrarque, fut trouvé mort dans sa bibliothèque, la tête penchée sur un livre. La preuve, il était fou ou névrosé. En ce qui concerne Molière, a souffert de convulsions, le moindre retard, le moindre dérangement le faisait entrer en convulsion et l'empêchait de travailler pendant 15 jours précisément. Et Balzac est donné comme exemple de fait biographique se rapportant à l'état d'excentricité à potentiel pathologique. Mort d'une hypertrophie du cœur, genre de maladie qui prédispose éminemment aux congestions du cerveau, comme l'aurait démontré l'arbre des pathologies de Moreau. L'excentricité de ses idées est connue de tout le monde. Il avait, dit M. de Lamartine, sur toute chose des idées solitaires, c'est-à-dire en contradiction avec le sens vulgaire de ce bas monde qu'on appelle le bon sens, dont il est aussi dangereux d'être trop loin que d'être trop près sur cette terre. Je n'ai pas vérifié pour savoir si Lamartine a déjà dit des choses pareilles sur Balzac, mais il est censé fournir la preuve que Balzac était excentrique. Du coup, mal placé dans ce monde où c'est le bon sens qui règne. Et puis, il suit une anecdote que je ne vais pas vous lire concernant son père. Aussi bizarre que son fils, il s'est mis au lit pendant je ne sais plus combien de temps, et puis 20 ans. Et puis, après 20 ans passé au lit, il se lève un beau matin et tout va bien de nouveau. Autre preuve de l'excentricité de Balzac. Les auteurs de ces études, depuis Tissot jusqu'à Moreau de Tours, étaient aussi, à leur façon, des hommes de lettres. Par leur éducation, ils possédaient une culture littéraire et leurs écrits témoignent aussi d'une certaine ambition littéraire, du moins par le style parfois ampoulé comme chez Réveillé Paris. Leurs livres sont destinés, comme je l'ai déjà dit, à un lectorat général, aussi bien qu'à des professionnels médicaux. De leur côté, les écrivains, les vrais, s'intéressaient réciproquement aux travaux des médecins. Si Flaubert, fils de médecin, peut se moquer de l'idée que le génie serait une névrose, c'est qu'il a lu le livre de Moreau, grâce à qui le terme va faire fortune. Et si Zola se soumet à l'enquête psychologique d'Édouard Toulouse, dont il a été question la semaine dernière, c'est qu'il se sentait partenaire bien plus que patient dans l'entreprise. Il connaissait lui aussi le livre de Moreau, ainsi que celui de Lombroso, l'homme criminel, dont il s'est servi pour créer le personnage de Jacques Lantier dans La Bête humaine. Et bien que Moreau se soit permis de classer Balzac parmi les auteurs exhibant un état d'excentricité, Balzac lui-même avait lu le livre de Moreau, du haschich et de l'aliénation mentale, et lui avait écrit pour lui transmettre ses propres idées au sujet des organes de la pensée en tant qu'organes dans des cas de folie. Je cite la Balzac. Dans cette lettre de 1845, Balzac s'adresse au médecin d'égal à égal, comme si le médecin et le romancier avaient les mêmes préoccupations et aussi les mêmes compétences. Attitude qui fut favorisée par le fait que Balzac avait participé lui aussi aux réunions du club des haschichins créé par Moreau à l'hôtel Pimaudan. La folie, le génie et les maladies des écrivains et des artistes figurent comme thème majeur dans les romans réalistes du 19e siècle. On pourrait citer à cet égard Corinne de Madame de Staël, Louis Lambert, La recherche de l'absolu, Le chef-d'œuvre inconnu et Gambara de Balzac, l'œuvre de Zola, sans parler des nombreux artistes et écrivains souffrants, comme Charles de Mailly dans le roman du même titre des frères Goncourt, ou bien du peintre Coriolis dans Manette Salomon des mêmes frères Goncourt. Et la liste pourrait se prolonger. Ainsi, les génies malades rentrent dans le roman réaliste du XIXe siècle. Le médecin, lui aussi, figure comme personnage dans ces histoires d'artistes souffrants et de génies menacés par la folie. Le docteur Noir se charge de soigner Stello dans le livre de Vigny du même nom. Balzac accorde au docteur Bianchon un rôle important et récurrent dans la comédie humaine. Flaubert donne à son héroïne Emma Bovary un mari médecin et d'autres médecins interviennent au cours de ses aventures, notamment le docteur Canivet et le docteur Larivière, dont le regard s'aligne sur celui du romancier, tout comme Zola fait du docteur Pascal le sosie du romancier dans la série des Rougon-Macquart, maniant les mêmes informations selon les mêmes principes. Le romancier réaliste et le médecin mettent tous les deux l'objectivité et l'observation exacte au cœur de leur pratique. Pratique qui a également pour but d'aller au-delà des seules apparences pour en arriver à ce que Balzac appelle le sens caché dans cet immense assemblage. Et pour le médecin, il s'agit évidemment d'arriver au bon diagnostic. Cependant, la convergence entre romancier réaliste et médecin est loin d'être totale. Et en ce qui concerne le génie, la perspective du romancier est à la fois plus ambiguë, plus complexe et je dirais aussi plus intéressante que celle du médecin. Et dans le roman, le portrait clinique se double en général d'une sympathie parfois plus révélatrice. Il faut noter aussi que là où les médecins se confinent pour la plupart à la personne biographique, le romancier, lui, évoque aussi souvent l'œuvre. La toile de Frénovert dans le chef-d'œuvre inconnu, c'est dans le titre déjà, les expériences de Balthazar Claës dans La recherche de l'absolu, la musique de Gambara dans La nouvelle du même nom, et dans Louis Lambert, le traité de la volonté et les pensées dont une partie est donnée dans le texte même. Et on pourrait dire que dans le roman de Zola, l'œuvre, l'œuvre elle-même constitue un personnage central. De tous les romanciers réalistes du XIXe siècle, c'est Balzac qui va s'intéresser le plus intensément au génie. Il se targuait lui-même de génie pour avoir inventé le principe du retour des personnages dans la comédie humaine. Il court à travers Paris pour aider sa sœur. « Salut, moi, je suis en train de devenir un génie. » Donc, le génie, ce n'était pas l'autre, c'était aussi lui. Plusieurs des personnages de la comédie humaine ont du génie aussi, à tel point que Baudelaire prétend que chacun chez Balzac, même les portières, a du génie. Mais c'est autour des génies malades que gravitent les perspectives disparates qui font du génie une figure qui s'avère être tout sauf simple, qu'il s'agisse de Phrénophère, Gambara, de Balthazar Claës ou de Louis Lambert. Et chez ce dernier, on trouve le portrait le plus approfondi et le plus ambigu du génie. Le texte du roman Louis Lambert fut révisé plusieurs fois par Balzac et il en existe 7 éditions différentes, ce qui suggère non seulement que le roman lui tenait à cœur, mais aussi qu'il recelait des complexités, voire des ambiguïtés, difficiles à résoudre de manière simple. Le portrait du génie est en effet particulièrement ambivalent dans ce roman, qui raconte l'histoire d'un Lambert doué de génie dès son plus jeune âge, qui paraît sombrer dans la folie après s'être châtré à la veille de son mariage. Voilà un cas dont il n'existe pas de discussion, ni chez Tissot, ni Tissot qui s'occupe beaucoup des parties génitales, peut-être qu'il en parle, mais il n'en est pas question ni chez l'élu, ni chez Moreau. À la différence des autres romans de Balzac, et aussi du roman réaliste en général, Louis Lambert est raconté à la première personne, en l'occurrence par l'ami de Lambert au collège, et c'est lui qui fournit le récit de la jeunesse de Lambert. L'image de Lambert qui s'en dégage comporte tous les traits du génie reconnus. L'originalité, une imagination presque divine, une perspective exceptionnelle, une capacité de compréhension également exceptionnelle, une mémoire prodigieuse, une concentration extraordinaire de force humaine dans le cerveau. Il y a aussi la précocité de Lambert, qui composa à l'âge de 15 ans son traité de la volonté, ouvrage dont le titre reprend celui de Balzac lui-même, rédigé au même âge, donc signe précurseur du génie de Balzac. Si bien que le portrait de Lambert est aussi une espèce d'autoportrait de l'auteur. Par ailleurs, Lambert est doté d'un trait particulier au génie de Balzac, notamment une espèce de seconde vue par laquelle il embrassa la nature. Tout comme les poètes romantiques, le jeune Lambert souffre aussi de l'incompréhension de ses camarades de classe ainsi que de celle de ses maîtres, qui lui enlèvent le manuscrit du traité de la volonté pour le jeter à la poubelle sans soupçonner qu'il s'agit d'une œuvre de génie. Ce portrait, bienveillant et sympathique, est établi de manière rétrospective par le narrateur, qui dit avoir longtemps ignoré la poésie et les richesses cachées dans le cœur et sous le front de mon camarade, et qui avoue qu'il lui avait fallu attendre plusieurs années pour comprendre la portée des phénomènes desquels il fut alors, dit-il, l'inhabile témoin. Mais à la différence des poètes romantiques qui s'offraient une reconnaissance mutuelle, la compréhension de Lambert par son ami arrive tout tardivement pour lui être le soutien dont il a pu avoir besoin. En plus, l'ami de Lambert n'est pas lui-même un génie. L'autre trait du génie que possède Lambert, c'est une sensibilité excessive, une maladive délicatesse, peu adapté à la vie du collège. tant et si bien que, étant si nerveusement constitué, souvent vaporeux, autant qu'une femme, dominé par une mélancolie chronique, encore une fois la mélancolie, il était, comme le dit le narrateur, tout malade de son génie. L'autre trait du génie que possède Lambert, c'est une sensibilité excessive, une maladive délicatesse peu adaptée à la vie du collège. Tant et si bien que, étant si nerveusement constitué, souvent vaporeux, comme je l'ai déjà dit, dominé. Pardon, j'ai repris le paragraphe. C'est à la veille de son mariage que se produit sa chute dans la folie. C'est le diagnostic avancé pour Lambert par les aliénistes, dont un vrai Esquirol qui est représenté dans le roman de Balzac et qui le juge que Lambert est incurable. Mais la vérité est plus incertaine. Pour le narrateur qui retrouve son ancien ami après l'avoir perdu de vue pendant quelques années, il y a une continuité entre les qualités du jeune génie qu'il avait été et son état apparemment maladif. Selon le narrateur, cette maladie ne fait que conforter le système de preuves que Lambert lui-même avait donné dans son traité de la volonté, où il prétendait qu'une méditation profonde, une belle extase, étaient peut-être des catalepsies en herbe. Donc pour Lambert, on ne peut pas forcément distinguer entre une belle extase et une catalepsie. Le portrait que brosse le narrateur de son ancien ami a tout pour confirmer pourtant le diagnostic de folie. Et j'ai mis l'illustration de l'édition Fionn, qui va très bien avec la description qu'en fait le narrateur. Il m'offrit, Lambert m'offrit, un de ces spectacles qui se grave à jamais dans la mémoire. Il se tenait debout, les deux coudes appuyés sur la saillie formée par la boiserie, en sorte que son buste paraissait fléchir sous le poids de sa tête inclinée. Ses cheveux, aussi longs que ceux d'une femme, tombaient sur ses épaules et entouraient sa figure de manière à lui donner de la ressemblance avec les bustes qui représentent les grands hommes du siècle de Louis XIV. Donc, tout en étant fou, il ressemble aux grands hommes dont on célèbre parfois le génie du XVIIe siècle. Son visage était d'une blancheur parfaite. Il frottait habituellement une de ses jambes sur l'autre par un mouvement machinal que rien n'avait pu réprimer, et le frottement continuel des deux os produisait un bruit affreux. C'était un débris arraché à la tombe, une espèce de conquête faite par la vie sur la mort ou par la mort sur la vie. J'étais là depuis une heure environ, plongée dans une indéfinissable rêverie, en proie à mille idées affligeantes. Tout à coup, Louis cessa de frotter ses jambes l'une contre l'autre et dit d'une voix lente « Les anges sont blancs. » Fou ou génie ? Et l'image rappelle un peu le tasse dans la maison des fous que je vous avais montré au départ. Fou ou génie ? Mais malgré l'horreur que lui inspire ce spectacle, le narrateur dit douter momentanément que Lambert eût perdu la raison. Et, en effet, Pauline, la femme que Lambert aurait dû épouser avant de se châtrer, et qui se dévoue à lui tout en n'étant pas mariée, est convaincue qu'il n'est pas fou. Et dans les romans de Balzac, et pas seulement, c'est souvent les femmes qui comprennent mieux le génie que les médecins. Lui, dit-elle, doit paraître fou, mais il ne l'est pas, si le nom de fou doit appartenir seulement à ceux dont, par des causes inconnues, le cerveau se vicie et qui n'offrent aucune raison de leurs actes. Tout est parfaitement coordonné chez mon mari. Aux autres hommes, il paraîtrait aliéné. Pour moi, qui vis dans sa pensée, toutes ces idées sont lucides. les gens vulgaires, à qui la vélocité de sa vision mentale est inconnue, ignorant le travail intérieur de l'âme, se mettent à rire du rêveur et le traitent de fou. Elle fait ainsi écho à l'affirmation de Madame de Claes, encore une femme, qui déclare à son mari « Je te sais grand, savant, plein de génie, mais pour le vulgaire, le génie ressemble à la folie. » Si le narrateur de Louis Lambert hésite entre ces deux vues, et s'il finit par s'enfuir de peur d'attraper la folie qu'il considère être une contagion, le génie de Lambert reste incontesté et sa folie incertaine. Tout dépend de la posture qu'on revêt à l'égard du génie. Observation externe de la part des médecins et peut-être aussi du vulgaire. Il est très souvent question du vulgaire dans les discussions du génie au 19e siècle, comme on l'a déjà vu. Donc, d'une part, observation externe, ou d'autre part, compréhension empathique, comme chez les femmes Pauline et Madame Claes, et peut-être aussi chez le lecteur. Le cas de Louis Lambert fait les frais d'échanges entre les membres du Cénacle dans Illusion perdue, où l'on apprend que, je cite, « le plus grand esprit de notre époque se trouve dans un état de catalepsie qui ne laisse aucun espoir ». Mais n'oublions pas que la catalepsie était considérée comme étant rattachée aux plus grandes extases par Lambert. Mais Bianchon de préciser que, je cite, « sa tête est le théâtre de phénomènes sur lesquels la médecine n'a nul pouvoir ». Si Bianchon semble se ranger du côté de ses confrères médicaux réels, il reconnaît dans un autre roman de Balzac, « Autre étude de femme », l'existence de ces bizarreries apparentes qui font prendre les gens de génie pour des fous, mais dont l'explication se trouve dans la nature exquise et dans les exigences de leur esprit. Jugement qui va dans le sens de celui, encore une fois, de Madame de Claes ainsi que de celui de Pauline. Il revient donc au romancier, qui finalement ne tranche pas, d'explorer le génie dans toute son ambiguïté en confrontant des perspectives différentes dont aucune n'aura le fin mot du phénomène qui va continuer d'exercer sa fascination auprès du public pendant plusieurs décennies encore. La semaine prochaine, nous verrons les vicissitudes du génie se prolonger avec son déclin et aussi, attention spoiler, c'est pas dans le titre, avec quelques indices d'une certaine ressuscitation. Merci de votre écoute.